Si certains dirigeants souhaitaient il y a quelques années faire de la France un pays de propriétaires, d'autres espèrent-ils maintenant un pays d'entrepreneurs? Depuis 10 ans, une partie de la population active a en effet découvert le micro-entrepreneuriat. Un statut venu agrandir la catégorie des non-salariés aux côtés des indépendants et des professions libérales. Entre 2009 et 2016, le nombre de micro-entrepreneurs a triplé pour dépasser le million et le nombre de ceux réellement en activité a quadruplé pour dépasser les 650 000. Ces travailleurs, censés être leur propre patron, affichent un chiffre d'affaires moyen de 3500 euros par trimestre, donc inférieur à 1200 euros par mois, sur lequel il faut leur payer les charges. Des charges révélatrices des avantages et inconvénients du statut. Elles sont fonction de l'activité et proportionnellement assez faibles, mais elles ne donnent quasiment aucune protection sociale. Si 9 personnes actives sur 10 sont encore salariées, il n'empêche que le recours aux micro-entrepreneurs, notamment par les secteurs qui ont émergé avec l'économie numérique, a contribué à la progression de 24% du nombre de non-salariés sur les 15 dernières années et à l'affaiblissement du système de protection sociale dont le financement repose en grande partie sur le salariat. Alors, faut-il s'attendre à une baisse continue de l'emploi salarié dans les années qui viennent? Avec quelles conséquences pour la protection sociale? Devons-nous revoir dès lors le système et envisager de moins en moins de solidarité pour laisser place à une protection individuelle? C'est ce dont nous allons parler jusqu'à 13h.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour cela, nous recevons aujourd'hui en studio Anne Hédoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférences au CNAM, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail et au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique. Vous travaillez beaucoup sur les politiques de l'emploi, les politiques sociales, les inégalités hommes-femmes.
Voilà.
Et vous faites partie des économistes atterrés aussi.
Exactement.
Il faut le préciser. Guillaume Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste au mensuel Alternative Économique. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental. On vous connaît bien, l'antenne de France Inter. Vous êtes venu régulièrement. Et votre dernier ouvrage paru en 2015, La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux, est paru aux éditions de La Découverte. Enfin, François-Xavier Olivaux, bonjour.
Bonjour.
Donc vous conseillez les chefs d'entreprise. Vous êtes vous-même un ancien dirigeant de PME. Et vous réfléchissez au sein de plusieurs think tanks aux interactions entre technologie, entreprise et système politique. Votre dernier ouvrage paru chez PUF s'appelle « Microcapitalisme vers un nouveau pacte social ».
Voilà.
Alors, une petite question à chacun d'entre vous. Quels sont aujourd'hui, pour commencer, donc quel est actuellement quels sont vos statuts professionnels? Anne Emo.
Je suis fonctionnaire.
Oui. D'accord, donc salarié et fonctionnaire.
Voilà.
D'accord. Oui. C'est François-Xavier Olivaux.
Je suis salarié.
D'accord, vous êtes salarié et pas votre propre patron.
Et pas mon propre patron, non.
Salarié. D'accord. Guillaume Duval.
Moi, je suis salarié, mais d'une coopérative. C'est-à-dire que je suis en même temps propriétaire de l'entreprise à ce titre.
Vous parlez du magazine, notamment Alternative Économique.
Qui est une coopérative ouvrière de production, comme on disait dans le temps.
Donc vous faites partie des 90% de la population aujourd'hui active qui est sur un régime salarié, les uns comme les autres.
Voilà.
Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le micro-entrepreneuriat a été une vraie révolution sur le marché de l'emploi, Anne Hédoux?
Non. On peut pas nier le fait qu'il y a des changements importants du côté de l'emploi non salarié, mais quand on en déduit qu'on marche vers la fin du salariat, en réalité pas du tout. Si on regarde sur le long terme, l'emploi non salarié représentait à peu près 20% de l'emploi au début des années 70. Et aujourd'hui, en 2017, il en représente 11,6%.
On va y venir.
Une chute de l'emploi non salarié et la hausse récente de l'emploi non salarié, qui est liée principalement au développement du statut de l'auto-entrepreneuriat puis du micro-entrepreneuriat, c'est tout sauf une lame de fond.
Mmh. Voilà. pour vous, François-Xavier Olivaux ?
Alors, c'est pas encore une lame de fond, mais je pense que ça va le devenir. Ouais. On est sur un mode d'interaction et un mode de participation des gens dans l'activité économique qui est en train de démarrer autour de l'économie des plateformes. Et je pense que ce type d'intervention est amené à se développer de façon assez considérable. Je rejoins Anne-Edou sur le fait que le salarié va pas disparaître, mais je suis persuadé que le salarié va reculer et va en tout cas perdre son côté un peu exclusif. Ou en tout cas de référence, de façon de participer à la vie économique. Ce qui pose la question que vous avez posée en liminaire, qui est la question de la protection sociale. Et je pense qu'effectivement, c'est une lame de fond qui démarre et qui ne va que s'amplifier.
Guillaume Duval, pour vous.
Donc pour l'instant, effectivement, la tendance de fond reste à la diminution du non-salariat. Je ne sais pas si vous savez quel est le grand pays développé où il y a le moins de non-salariés aujourd'hui.
Je dirais l'Allemagne, peut-être.
Ce sont les États-Unis d'Amérique. Mmh. Et c'est normal, c'est parce que c'est le pays capitaliste le plus développé. Donc c'est là qu'il y a le moins de non-salariés parmi tous les pays industrialisés. C'est une tendance de fond qui a des raisons profondes. C'est très difficile de se mettre à son compte, c'est très difficile de faire des affaires, c'est de plus en plus difficile parce que ça demande de plus en plus de capital matériel et de capital immatériel, de réputation, de qualité, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle il a été de plus en plus difficile d'être indépendant sur les marchés et de gagner sa vie. C'est vrai qu'en France, il y a une recrudescence du travail non salarié parce que les règles ont été dans ce sens, de faciliter ce genre de choses, les règles fiscales, les règles sociales, la volonté des différents gouvernements successifs. Mais ça se traduit par une chose qui est très importante à connaître, c'est la multiplication des travailleurs pauvres non salariés. Il y a en France 7% de salariés qui sont des travailleurs pauvres, donc qui vivent dans des foyers qui gagnent moins de 60% du revenu médian des Français. Il y a 25% de travailleurs indépendants pauvres. C'est le développement du travail pauvre, c'est d'abord le développement du travail indépendants pauvres, et on peut redouter effectivement que les gouvernements successifs aient voulu développer ce travail pauvre en développant le travail indépendant.
On va pouvoir développer tout ça dans les minutes qui viennent. Moudaoïd, autrement dit Pablo Padovani, explore le territoire funk avec Reptile.
Je sais jamais, se laisser, et ta mort sans aucune pitié.
C'était Reptile par Moodoid. La programmation musicale de l'émission est assurée par Elsa Béranger. Le débat est réalisé par Frédéric Milano, assisté de Loïc Frapsos et Pauline Laverdure. Elle est préparée par Stéphane Ronxin, Martin Broyer et Gaëtan Lévy. Une émission consacrée ce midi à l'avenir du salariat et aux conséquences sur la protection sociale.
Moi je suis con, mais le dernier qui m'a vu bosser, il est pas jeune. Hein.
Un chauffeur Uber gagne 19,90€ brut de l'heure. Ça peut sembler beaucoup, c'est deux fois le SMIC horaire, mais attention, ce chiffre est trompeur. Dans la suite de l'étude, on nous explique qu'un chauffeur roule en moyenne 45 heures par semaine, ce qui donne 3600€ brut par mois, mais il faut retirer à cela 40 à 50% de frais, notamment pour payer l'essence et également pour rembourser la voiture.
Besoin d'un taxi ? Réservé sur Uber. Les applications numériques facilitent notre vie de consommateur, mais quid de notre travail ?
Allez, Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Je ne suis pas un Uberolâtre, au contraire, parce que je pense que leur vocation finale, c'est de ne pas payer d'impôts, et c'est plutôt d'avoir des véhicules autonomes. C'est même pas d'avoir des chauffeurs mal payés.
Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Tu diras que je m'attends de pas ce matin, j'ai peut-être été en retard. Faut aller bosser, non ? Je me fous, moi.
Vous avez un problème avec l'autorité, monsieur Anderson. Ou vous choisissez d'être à votre poste à l'heure, à dater de ce jour, ou vous choisissez de vous dégoter un autre job.
Trois codes ! Ouh ! Ah ben les gens qui bossent ! Ouh ! Ils sont pas épanouis ! Ouh ! Et allez, on se lâche ! Stop ! Stop !
La société a pas voulu de nous ! Qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle !
Les sept nains étaient-ils des salariés des mines ou y travaillaient-ils payés à la tâche ? Ce n'est pas précisé dans Blanche-Neige, d'autant que le salariat est aujourd'hui le régime dominant et souvent synonyme de protection, mais cela n'a pas toujours été le cas. Quand on parle aujourd'hui, on parlait de micro-entrepreneuriat, on reçoit d'ailleurs beaucoup de réactions là d'auditeurs qui nous parlent de liberté, d'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui ce statut peut être assimilé à une forme de liberté ? François-Xavier Oliveau.
Dans une certaine mesure, oui. À peu près les deux tiers. Il y avait une étude de McKinsey d'octobre 2016 hein, qui parlait des 13 millions de personnes qui ont une activité autonome en France, soit à titre principal pour la minorité entre eux, soit à titre secondaire comme complément de salaire. Et environ les deux tiers disaient que c'était de façon volontaire et un tiers disait que c'était subi. Donc, dans une certaine mesure, il peut y avoir de la liberté dans l'entrepreneuriat, dans notre entrepreneuriat. En règle générale, d'ailleurs, les gens qui sont entrepreneurs, y compris les gens qui subissent ça, ont une satisfaction supérieure à celle des salariés, légèrement supérieure à celle des salariés. Donc, il y a effectivement une logique d'autonomie, d'indépendance. Le fait de pas avoir de patron, c'est plutôt quelque chose que les gens aiment bien. Le fait de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir son lieu de travail, c'est quelque chose que les gens aiment bien. La contrepartie de ça aujourd'hui, qui est probablement difficile, enfin qui est plus difficile pour les entrepreneurs et les indépendants, c'est que les revenus sont instables, sont incertains, et que la protection sociale est assez médiocre. Donc ça peut être une liberté, ça l'est pas toujours en pratique puisque c'est parfois subi.
Vous avez l'impression, Anidou, aujourd'hui que c'est encore un choix ou c'est subi ?
Alors, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que pour une certaine part des non-salariés, notamment les non-salariés classiques, voilà, il y a une forme d'indépendance.
Qui peuvent être profession libérale ou
absolument, oui, je sais pas, le médecin libéral, il a un risque de chômage faible, il a une protection sociale pour la santé. On peut pas dire que les non-salariés n'aient pas de protection sociale. Des revenus qui peuvent être conséquents, donc voilà. Mais il y a aussi toute une frange de non-salariés, et notamment chez les micro-entrepreneurs. Alors je pense par exemple à des travaux empiriques qui ont été faits par une sociologue, Sarah Abdennour, qui montre que finalement l'autonomie de ces micro-entrepreneurs, elle est fragile, c'est-à-dire que certains n'ont que un seul donneur d'ordre, si on prend les travailleurs des plateformes, et donc finalement ils ont un seul client, et donc pour cela on peut difficilement parler d'indépendance, hein, c'est-à-dire qu'ils sont subordonnés de fait à la plateforme ou au client, mais sans disposer de la protection sociale dont disposent les salariés, de la protection sociale contre la perte d'emploi.
Guillaume Duval, vous ?
Oui, enfin, je pense qu'un certain nombre de choses que disait Emmanuel Macron, par exemple, dans votre petit reportage là, sur les banlieues, est tout à fait juste. C'est-à-dire que pour des gens qui sont soumis quotidiennement à la discrimination de manière très importante sur le marché du travail classique, pour des gens qui sont soumis à un marché du travail qui fonctionne vraiment de manière très féodale en France, avec une importance excessive du diplôme universitaire, etc., pour trouver des positions, c'est vrai que le travail indépendant chez Uber ou chez d'autres peut apparaître comme une solution pour s'en sortir. Et ça, je comprends tout à fait. Par ailleurs, pour les chômeurs de plus de 50 ans en particulier, qui est la catégorie qui a le plus explosé dans la crise aujourd'hui, hein, on parle beaucoup du chômage des jeunes, mais l'effet massif de la crise, c'est le triplement du chômage des vieux.
Et qui s'inscrit généralement dans la durée, en plus.
Et ceux-là n'ont strictement aucune chance aujourd'hui de retrouver un boulot salarié. Donc ils sont plus ou moins contraints de se mettre à leur compte s'ils veulent retrouver une activité, et en plus les pouvoirs publics les poussent dans ce sens-là. Mais c'est vrai que pour ma part, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure sur les travailleurs pauvres, vraiment ce qui m'horripile, c'est l'énarque avec ceinture et bretelles qui voudrait que tous les chômeurs se mettent à leur compte. Hein. Ça reste très difficile de gagner sa vie, on risque en plus son patrimoine et ses économies quand on s'y met. C'est un choix de vie qui est très difficile, qui s'accompagne d'heures supplémentaires, enfin d'horaires très très longs, très lourds. C'est un choix de vie qui est toujours très difficile. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui le font, mais je crois que les pouvoirs publics qui poussent les gens dans cette direction sont des irresponsables.
François-Xavier Olivo, vous avez l'impression que ce choix du micro-entrepreneur, notamment, qu'on a appelé au départ auto-entrepreneur pendant quelques années, jusqu'en 2014, vous n'avez pas l'impression que c'est un glissement qui s'est fait, justement, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative possible pour ceux qui optent pour ce statut-là?
On a en France un marché de l'emploi qui est en chômage chronique depuis 40 ans pour un certain nombre de raisons, mais on a effectivement 8 à 9% de chômage structurel en France. Donc c'est sûr que en France, le développement de l'auto-entrepreneuriat a été d'un certain côté un palliatif à un marché du travail qui est particulièrement dysfonctionnel en France. Il n'est pas à l'étranger, ou dans beaucoup de pays étrangers, ils ont réussi à trouver des solutions pour ne pas le rendre dysfonctionnel. En France, on n'a pas réussi. Et donc effectivement dans un certain nombre de cas c'est un substitut, mais je voudrais pas qu'on oublie en fait le mouvement de fond, moi, qui me semble vraiment important, qui est la capacité par les plateformes de mettre en relation directe un consommateur avec un producteur. Et c'est ça en fait ce qui est en train de se passer. Ça peut être sur Uber, mais ça peut être sur Blablacar, sur Airbnb, etc. Il y a une forme de désintermédiation de l'entreprise, il y a une forme de capacité à rentrer dans un marché concurrentiel avec son propre microcapital, c'est ce que j'explique dans mon livre. Et je suis assez en désaccord avec ce que dit Guillaume Duval tout à l'heure en disant les barrières à l'entrée en termes de capital sont très élevées. En fait, elles ont baissé. Aujourd'hui, pour faire de la concurrence à la SNCF, je me mets sur Blablacar et avec ma voiture, je peux faire de la concurrence à la SNCF. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis concurrentiel. C'est-à-dire que je ne me paie pas de salaire, je n'amortis pas mon capital puisque c'est ma voiture que j'utilise déjà. J'ai une marque, en fait, vous parlez de capital incorporel tout à l'heure, Guillaume, mais j'ai une marque qui est faite de la notation de mes utilisateurs. Et en général, les gens ont plus confiance dans cette marque-là qui est la notation des utilisateurs que dans des marques subventionnées et soutenues par des millions et des milliards de dépenses en marketing. Et j'ai un accès au marché grâce aux plateformes qui est très facile. Si vendredi prochain, je vais à Châteauroux en partant de la porte d'Orléans à 17h50, je peux trouver les gens qui vont faire le même trajet que moi et qui vont venir être covoiturés par moi en partant de cet endroit-là à ce moment-là. Et donc, vous avez en fait une véritable désintermédiation de l'entreprise qui est en train de se produire. Je donne l'exemple d'Airbnb. Dans l'hôtellerie en France, pour gérer 1000 chambres, il faut environ 300 personnes. Sur Airbnb, pour gérer 1000 logements, il faut une personne salariée et non pas 300. Ça ne veut pas dire que le boulot disparaît. Il y a toujours des particuliers qui vont faire le travail sur Airbnb d'accueillir le client, de préparer la chambre, de la nettoyer, etc. Mais ce travail-là est transféré à des non-salariés. Il est transféré de salariés à des non-salariés. C'est pour ça que je pense que la tendance est une tendance de fond, indépendamment des côtés un peu conjoncturels. La tendance est vraiment une tendance de fond sur cette espèce de désintermédiation de l'entreprise par des plateformes qui sont très légères et qui apportent peu de valeur ajoutée, finalement, à part la mise en relation, et le travail est fait par les individus.
Il y a quelques jours, on a fait un débat, notamment justement sur Airbnb, où on voyait aussi qu'un certain nombre de personnes, non pas ceux qui louent, mais ceux qui travaillent aujourd'hui sur la location de chambres, par exemple ceux qui vont faire le ménage, sont aussi des gens qui vont être micro-entrepreneurs et ils ne l'ont pas forcément choisi.
Absolument, mais encore une fois, la question du choix est une question... Je pense pas qu'il y ait beaucoup... Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas choisi d'être salariés aussi, qui le font par nécessité. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont des... Si vous travaillez dans la seule usine de la région à 50 km à la ronde, vous subissez votre emploi, en règle générale, et en plus, vous êtes dans une certaine précarité, parce qu'en France, l'industrie est quand même sous tension. Mais, donc, les salariés aussi n'ont pas forcément choisi leur métier.
Intéressant, on va revenir d'ailleurs, ouais, dessus sur l'historique, parce qu'on voit que le salariat aussi a beaucoup évolué, justement. Vous vouliez réagir avant Guillaume Duval?
Oui, c'était pour dire que j'étais assez d'accord avec ce que vient de dire François-Xavier Olivio, à savoir que l'entreprise s'est créée. L'entreprise, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le capitalisme. En fait, c'est en dehors du capitalisme. C'est une organisation qui n'est pas une organisation de marché, et elle s'est créée parce que c'était très difficile de coordonner des milliers d'indépendants pour produire des choses compliquées. Et c'est vrai, ce que vient d'expliquer François-Xavier Olivio, que les technologies de l'information changent la donne à ce niveau-là, font baisser ce que les économistes appellent les coûts de transaction, et permettent sans doute, plus facilement qu'avant, de coordonner de manière efficace des travailleurs indépendants. Pour autant, c'est pas vrai qu'il faut moins de capital pour gagner sa vie. Ces gens-là, quand vous dites qu'ils travaillent pour BlaBlaCar ou pour Uber, le capital immatériel qui est derrière, c'est celui d'Uber et c'est celui de BlaBlaCar. Et c'est pour ça que c'est Uber et BlaBlaCar qui s'en foutent plein les poches et pas les gens qui travaillent pour eux. Donc c'est se mettre dans une position subordonnée par rapport à des très grands donneurs d'ordre qui, eux, sont capables effectivement de maîtriser le marché, de monopoliser le marché, de le bouffer, etc., etc. Donc après, ça pose la question du rapport entre ces plateformes et les gens qui travaillent pour elles. Et là, si on reste dans le paradigme du travail indépendant, on ne peut pas s'en sortir. Parce que le problème du travail indépendant, c'est que vous interdisez, du fait du droit de la concurrence, aux travailleurs indépendants de se coaliser et de s'entendre pour discuter avec la plateforme. Parce que là, on n'a pas le droit, c'est contraire au droit de la concurrence, etc. Alors que les salariés, eux, ont conquis le droit de se coaliser, de s'entendre pour discuter avec les patrons. Donc là, tant qu'on reste dans ce paradigme du travailleur indépendant qui est à son compte et qui est considéré comme un entrepreneur comme les autres, on peut pas s'en sortir au niveau des conditions de travail, des conditions de rémunération, de la protection sociale. Et ce qui vient d'être fait en France, dans la loi récente qui entérine cette situation en ne donnant strictement aucun droit supplémentaire aux travailleurs pour les plateformes, est un véritable scandale. Et ça pèsera très lourd sur le marché du travail en France dans le futur. Aux États-Unis, ils sont en train de requalifier, les juges requalifient les travailleurs d'Uber comme des salariés pour imposer des conditions plus correctes. En France, la majorité actuelle vient de priver les travailleurs de ces plateformes de cette possibilité de recours, et pour un plat de lentilles, pour rien du tout, comme au niveau des contraintes qui sont imposées aux plateformes.
Anne Edou, tout à l'heure vous parliez de vous remettiez un peu sur le long terme en expliquant qu'en 1970, il y avait plus de non-salariés qu'aujourd'hui, donc montrant que le salariat aujourd'hui a progressé. Mais en quoi le salariat est un statut désirable, plus que le non-salarié?
Alors, j'aurais voulu réagir déjà d'abord sur ce qui a été dit avant. Le salariat, il est désirable parce qu'il offre une protection et parce que ça a été la référence pour la construction de la protection sociale, y compris des non-salariés. Et ça le reste dans les discussions. Quand il y a eu les débats sur l'assurance chômage, il s'agissait bien, c'était une promesse du candidat Macron qui n'a d'ailleurs pas été tenue, il s'agissait bien d'ouvrir les droits à l'assurance chômage aux non-salariés et notamment aux plus précaires d'entre eux, qui en réalité ne l'ont pas obtenu. Mais je vais revenir sur cette question de la plateforme qui pourrait être vue, enfin je pense que c'est le sens de votre propos, comme offrant la possibilité d'un marché parfait. Il y a eu une note du Conseil d'analyse économique sur l'économie numérique il y a quelque temps qui considère que l'économie des plateformes, c'est finalement, ça permettrait de réaliser l'idéal du marché parce qu'on aurait une transparence parfaite, et puis les notations des clients finalement serait ce mécanisme qui permet d'équilibrer le rapport entre l'offre et la demande. Il suggérait même un truc qui peut paraître délirant, qui était de transmettre aux banques les notations des clients pour que les banques puissent savoir à quel point ces non-salariés, quel était leur potentiel de gain. Donc il y a une forme d'idéologie derrière les plateformes d'un marché parfait. Mais bon, je veux dire, les plateformes numériques, elles sont programmées, elles sont régulées, hein. Et donc finalement, tout dépend de la manière dont c'est régulé. Et puis tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on se situe. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système capitaliste. Et puis, des plateformes qui ont pu émerger comme des économies collaboratives, comme d'une certaine manière hors du capitalisme, bah finalement une grande partie d'entre elles s'y sont complètement intégrées, et je dirais qu'elles entrent même dans une forme de concurrence avec une économie classique, mais une concurrence par le bas. Socialement. Si on prend la concurrence, c'était le sens du petit documentaire que vous avez passé tout à l'heure entre Uber et les taxis. Bah, effectivement, on doit prendre au sérieux cette montée du micro-entrepreneuriat et de l'économie des plateformes, au sens où ça sert, mais je dirais même politiquement, d'armes pour déréglementer les professions réglementées, ce qui est quelque chose qui est un objectif de la Commission européenne, qui est réalisé par le gouvernement français. Et voilà, je pense que dans le fait de refuser de réguler Uber, d'impliquer soit de réintégrer dans le salariat, soit au moins d'imposer aux plateformes un certain nombre de règles minimales pour la protection des salariés, eh ben, il y a cette idée qu'on laisse faire cette concurrence par le bas des professions réglementées classiques.
Je sens que François-Xavier Olivaux avait envie de vous répondre, mais ce sera juste après ça.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Sympathique, chanson du groupe américain Pink Martini qui avait marqué l'année 1997 et inspirée d'un poème de Guillaume Apollinaire, Hôtel.
Le débat de midi, Didier Siamour.
On revient sur notre débat, donc pour lequel là il ne s'agit pas de ne pas vouloir travailler, mais de savoir sous quel statut. Tout à l'heure, François-Xavier Olivaux, je sentais que vous vouliez réagir quand Anne Hidou disait que le micro-entrepreneuriat, le développement de l'indépendance, peut être aussi un outil de dérégulation.
Alors, je voulais réagir sur votre question que j'avais trouvée tout à fait intéressante de pourquoi le salariat est-il désirable ? Parce que le salariat, c'est au départ le grand ennemi de Marx, qui en souhaite l'abolition. Et l'abolition du salariat, ça a été un des grands combats des syndicats au XXe siècle. C'était encore dans le statut de la CGT en 95. Et c'est encore aujourd'hui, dans l'article 1er, les statuts de FO. La disparition du salariat. Donc le salariat qui était finalement l'ennemi à abattre pour le communisme est devenu finalement un statut désirable. Pourquoi ? Non pas parce que on s'est soudain aperçu que la subordination c'était vraiment super et qu'avoir un chef c'était vraiment très bien et que travailler pour une entreprise et se voir dans la dialectique marxiste dépossédé de sa force de travail c'était super. En revanche, c'est Anne Hidou qui l'a dit, le salariat est désirable parce qu'il y a la protection derrière. Et je dirais pas seulement la protection sociale, mais c'est pour moi c'est un passeport pour la vie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vos feuilles de salaire, vous n'allez pas trouver de logement, vous n'allez pas pouvoir emprunter pour acheter une voiture. Donc il y a aujourd'hui Le principal avantage du salariat, c'est qu'il donne accès finalement à tout le reste de la protection sociale. Et c'est là où il y a un risque, à mon avis, majeur pour ce que je pense qu'il va être le recul du salariat, c'est qu'effectivement, si le salariat recule dans la situation actuelle, on fait aussi circuler la protection sociale, on fait aussi circuler l'accès à un certain nombre de biens et de services à tous les gens qui sont exclus du salariat.
Donc aujourd'hui, les liens entre salariat et protection sociale sont trop imbriqués.
Beaucoup trop imbriqués. Beaucoup trop marqué. Il faut inventer une protection sociale universelle, ça c'est indispensable.
Guillaume Duval, vous êtes pour l'abolition du salariat ?
Moi j'ai pas d'amour particulier pour le salariat, pour les raisons qui ont été dites. C'était vraiment l'horreur au départ, c'était vraiment travailler pour vivre au jour le jour. C'est devenu autre chose grâce aux luttes qu'il y a eu, qui ont abouti à donner des protections aux salariés, de la protection sociale, etc. etc. Je sais que comme toutes les choses, c'est un moment historique donné et que ce sera probablement remplacé par autre chose dans le futur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est effectivement la qualité des conditions de travail des gens, parce que ça, je suis malgré tout assez persuadé qu'on continuera à travailler d'une manière ou d'une autre, et ce qui les entoure, effectivement, pour assurer une certaine sécurité pour l'avenir. C'est pas simplement une question d'être gentil avec les gens et de faire du social. C'est aussi très important sur le plan économique. Si vous avez de l'insécurité, de l'instabilité, vous n'avez pas de croissance économique. Hein. Les pays où il y a le plus de travailleurs indépendants aujourd'hui, c'est d'abord les pays sous-développés. En Afrique, vous avez un esprit entrepreneurial terrible, les gens font plein de choses très intéressantes, mais comme ils sont tous travailleurs indépendants à vendre des cigarettes à l'unité sur les marchés, etc., ils gagnent pas grand-chose et ils n'ont pas de protection sociale parce qu'ils n'ont pas un État efficace derrière, et tout ça. Hein. Donc si c'est ça le chemin qu'on prend, c'est le chemin du sous-développement. Donc moi, je veux bien qu'on prenne un autre chemin que le salariat, mais effectivement, il faut réussir à garantir ce que vous disiez. Et pour ça, je répète ce que je disais tout à l'heure, la question centrale, c'est la question du droit de coalition des non-salariés, c'est-à-dire de leur capacité à s'entendre, notamment face aux plateformes, pour négocier en position de force. Sinon, on se retrouve dans la situation des agriculteurs depuis des décennies maintenant vis-à-vis de la grande distribution. On leur interdit de s'entendre pour discuter en position de force avec la grande distribution. Ils sont écrabouillés et ils gagnent des clopinettes. Donc si c'est ça qu'on veut dans toute la société, il faut continuer comme ça et développer le non-salariat de la manière dont on le fait aujourd'hui. Si on veut autre chose, je veux bien, mais ça implique de changer les règles du jeu sur le droit de la concurrence en particulier.
Anne Hidou, alors vous parliez du donneur d'ordre en disant souvent qu'aujourd'hui les gens qui font du micro-entrepreneuriat, le risque c'est d'avoir un donneur d'ordre, un client, mais qui soit le seul. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de subordination quelque part qui s'instaure. Il y a quelques années, on avait déjà évoqué un troisième statut en dehors du salarié ou du non-salarié, c'était celui de travailleur économiquement dépendant, avec donc pour des indépendants qui auraient dont 50% moins des revenus et l'organisation du travail dépendrait d'un seul donneur d'ordre. C'est une piste à suivre, ça ou pas ?
Alors, je pense que le tout ce qui peut améliorer la situation et reconnaître la subordination de fait de travailleurs non salariés est une piste. Hein. J'ai tendance à préférer la réintégration dans le salariat, mais il n'est pas certain, il faudrait savoir que toutes les professions non salariées ou que tous leurs membres préfèrent le salariat. Hein. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour ceux qui sont dépendants d'une plateforme, effectivement, il faut qu'ils puissent accéder à une protection et il faut
et d'abord
aussi
avoir
que
une protection, comme disait Guillaume Duval, la possibilité défendre des intérêts collectifs.
Alors, c'est une autre chose encore sur laquelle je vais revenir, mais à un moment dans les débats sur l'indemnisation du chômage, on n'a pas ouvert l'indemnisation du chômage aux travailleurs des plateformes en disant que finalement ce serait aux plateformes de payer pour cette couverture. Et je pense que oui, voilà, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que les plateformes se comportant comme des donneurs d'ordre et comme, je dirais, des employeurs de fait, il me semble essentiel de réguler les choses pour qu'elles soient responsables en cas de mise au chômage de leurs non-salariés. Voilà. Et puis, je pense aussi sur la question de la subordination. Donc, on voit que la subordination n'est pas l'apanage du salariat. Je dirais que, pour revenir sur votre question, est-ce que le salariat est désirable, hein, il est désirable pour les protections qu'il offre. Il ne l'est pas, dans de nombreux cas, pour la subordination qu'il implique. Hein. Je pense à un ouvrage récent de mon collègue Thomas Coutreau sur Libérer le travail, je ne sais plus quel est le titre exact. Et je pense que, alors lui, il traite du salariat. Je pense qu'effectivement, dans le salariat, on ne peut pas nier, on ne peut pas considérer que ce soit un modèle parfait. On ne peut pas nier l'existence de souffrance au travail, l'existence de subordination. Et certainement qu'en France, il faudrait démocratiser les entreprises, c'est-à-dire donner davantage de pouvoir dans la prise de décision aux salariés, que ce ne soit pas uniquement l'affaire du patron ou l'affaire des actionnaires. Je pense que cette question de subordination, c'est un peu la même pour les travailleurs des plateformes, c'est-à-dire que l'économie numérique peut-être, les plateformes posent une question de démocratie. Je ne sais pas, pour ceux qui regardent Black Mirror, on en a parlé aussi à propos de la Chine, c'est-à-dire le fait que la numérisation permette de noter les gens, de les suivre, etc. Dans les plateformes, ça existe aussi. Il me paraît essentiel que la contrepartie soit dans un pouvoir de décision ou de coalition de ces travailleurs des plateformes. Ça peut pas s'accompagner d'absolument aucun pouvoir de décision.
François-Xavier,
il y a un enjeu de démocratie là-dedans.
François-Xavier Olivo, est-ce que c'est pas intéressant ça de voir que justement ces travailleurs avec ce statut particulier aujourd'hui, leur patron, est-ce que quelque part ils n'ont pas un patron aujourd'hui, ces micro-entrepreneurs, et qui est leur patron?
Alors, il peut y avoir effectivement un lien de dépendance économique envers une seule plateforme, mais pas forcément. Si vous êtes chauffeur Uber, vous pouvez aussi bosser pour chauffeur privé, pour le cab, pour, il y a plein de plateformes. Hein, donc c'est pas forcément une dépendance vis-à-vis d'un seul patron. Vous pouvez avoir le phénomène de ce qu'on appelle le slashing qui se développe, c'est-à-dire la multi-activité et le multi-employeur. Et c'est vraisemblablement également un phénomène qui va se développer de plus en plus. Après, effectivement, si vous avez un seul donneur d'ordre, vous êtes dans une tête dépendance économique, mais de même qu'une entreprise qui n'a qu'un seul donneur d'ordre. Hein, donc le droit existe là-dessus et en toute logique, effectivement, on peut décider de protéger un salarié qui serait en état de dépendance économique. Je voudrais juste, c'est pas forcément aussi tranché que ça, cette espèce de logique de domination d'une plateforme sur des salariés. Guillaume Duval disait tout à l'heure, Uber s'en met plein les fouilles. Uber en 2017, c'est 4,5 milliards de pertes. 2 milliards de chiffre d'affaires, 4,5 milliards de pertes. D'accord. Donc en fait aujourd'hui Uber a une stratégie de conquête de marché qui à mon avis d'ailleurs est vouée à l'échec parce qu'en fait c'est très difficile de construire une situation concurrentielle sur un marché comme ça parce que vous avez effectivement des concurrents locaux. Ils essaient d'avoir des effets de réseau qui leur permettent de dominer un peu la concurrence locale, mais je pense pas qu'ils vont y arriver. Il y a eu déjà des tentatives de chauffeurs eux-mêmes qui se mettent en coopérative et qui décident eux-mêmes de lancer leur propre plateforme parce que les barrières à l'entrée sont assez faibles. Donc en fait vous pouvez aussi lancer votre propre plateforme. Donc moi je crois pas du tout à une espèce de lutte perdue d'avance entre les indépendants et les plateformes. Je pense que le boulot des plateformes est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, et que leur domination supposée sur le monde entier et le fait qu'on soit sous leur coupe me paraît un scénario très pessimiste et probablement pas vrai.
Mais tout à l'heure, vous parliez, vous avez, dès le début de l'émission, parlé également de la nécessité quand même de revoir la protection sociale.
Ah oui, bien sûr.
Sur ce type de statut que vous-même.
Il faut savoir ce que vous voulez dire là-dessus. Soit c'est un avantage décisif et ça permet effectivement d'abaisser les coûts de transaction, etc. Et dans ce cas-là, ça s'imposera et dans une logique de pouvoir de réseau, ça sera des marchés monopolistiques ou oligopolistiques. Soit effectivement, ça sert à rien et dans ce cas-là, c'est l'entreprise classique qui s'imposera. Mais si ça marque vraiment une révolution, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se trouvera confronté à un problème de régulation extrêmement grave vis-à-vis d'acteurs extrêmement puissants qui chercheront à s'en mettre plein les fouilles, qui chercheront à ne pas payer d'impôts en France, qui chercheront à ne pas payer de la protection sociale pour les gens qu'ils emploi en France, et c'est bien à ça qu'on assiste pour l'instant. Alors c'est vrai que ces gens-là perdent de l'argent pour l'instant parce qu'ils sont lancés dans une fuite en avant, parce que c'est la logique du winner takes all, comme on dit sur ces marchés-là, donc il faut grossir très vite pour devenir l'oligopole ou le monopole qu'il y aura au bout du compte, donc ils dépensent beaucoup d'argent pour ça, mais si ça marche, et d'après ce que vous dites ça devrait marcher, on aura un problème de régulation très sévère sur tous les aspects sociaux, fiscaux, etc.
Non, d'après ce que je dis, en fait, je pense pas que ça marche. C'est-à-dire que la construction d'un monopole ou d'un oligopole, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate. Aujourd'hui, on constate une situation de concurrence entre plateformes sur un certain nombre de marchés qui fait je pense pas que la valeur va rester chez les plateformes, mais on n'a pas d'exemple notamment sur le parti transport d'oligopole.
Mais je voudrais revenir sur la notion de protection sociale, ouais, par rapport à ça, vous qui défendez ce développement aujourd'hui du micro-capitalisme, comme vous le dites. Comment aujourd'hui prendre en charge ce volet protection sociale ?
Alors, je le constate plus que je le défends. Hein. C'est-à-dire, je constate un fait économique et j'essaie d'adapter nos systèmes à ce que je vois plutôt qu'à une certaine idéologie. Donc c'est très pragmatique comme approche. Hein. Je constate le développement de ça. Moi, je pense pas que la protection sociale puisse être déléguée aux entreprises, pour être très concret. Je pense parce que ça marche pas. C'est pas leur boulot et c'est pas. Et si elles le font, si on leur demande de le faire, elles vont le faire mal. Je pense que la protection sociale, c'est l'objet de la nation et que c'est le boulot de l'État, effectivement, de fournir en protection sociale. Cette protection sociale, on l'a historiquement construite sur une logique catégorielle. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire, par exemple, des caisses de retraite pour les cheminots, les salariés de l'opéra, les fonctionnaires, etc. Je pense qu'il faut la reconstruire complètement sur une logique universelle, c'est-à-dire de donner des droits qui ne sont pas liés au statut, mais des droits qui sont liés à la personne, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la retraite, du chômage, etc. De travailler sur une logique, une refonte complète du système, c'est ce que je propose dans mon livre, sous toute la deuxième partie, où je réécris en fait ce que pourrait être une protection sociale universelle en m'appuyant sur deux piliers qui sont la liberté et la solidarité qui se nourrissent pour moi mutuellement.
Mais du coup, qui cotise ? Qui cotise ? C'est l'État.
C'est bien ça la question.
Guillaume Duval, et après
aujourd'hui, on est déjà dans une voie, on est déjà très engagé dans la voie d'une universalisation de la protection sociale, mais on y est engagé d'une manière qui est totalement perverse. Et que le gouvernement actuel renforce cette perversion, qui est que c'est la protection sociale payée par les salariés et par les employeurs de salariés qui finance aujourd'hui le développement de la protection sociale des indépendants. On marche sur la tête. On donne des droits aux indépendants, mais on n'exige pas des cotisations correspondantes. Le RSI, non seulement ça ne fonctionnait pas sur le plan informatique, téléphonique, etc., mais c'était un gouffre pour la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale des salariés qui payait la sécurité sociale des indépendants. On peut pas continuer comme ça. Alors, il y a une part de volonté politique du gouvernement de favoriser le travail indépendant en ne lui imposant pas les mêmes coûts qu'au travail salarié, mais ça c'est une logique qui va détruire la protection sociale si on continue dans cette voie, et malheureusement ce gouvernement aujourd'hui a l'air de vouloir continuer dans cette voie.
Anne Hédoux.
Oui, alors contrairement à ce que vous dites, hein, le financement de la protection sociale par les entreprises et par les cotisations des salariés est extrêmement performant, parce que si on compare, il existe aujourd'hui une protection sociale universelle, hein, si on prend par exemple les garanties de revenus, les minima sociaux comme le revenu de solidarité active, le RSA, c'est une protection sociale universelle, on n'a pas besoin d'avoir cotisé pour y avoir accès, simplement c'est d'un très bas niveau. Et donc, quand on est salarié et qu'on a suffisamment cotisé, souvent on gagne plus par l'assurance chômage que par le RSA. Et donc, tout au contraire, voilà, le fait que tous les acteurs économiques contribuent au financement de la protection sociale, les entreprises même, elles y ont intérêt, hein, c'est-à-dire que si elles contribuent pas au financement de la protection sociale de leurs travailleurs, salariés ou non, il faudra qu'elles payent des salaires plus élevés pour avoir des travailleurs en bonne santé, qui puissent se payer leurs soins de santé, ou pour avoir des travailleurs éduqués, voilà. L'intérêt de la socialisation de la protection sociale, c'est-à-dire le fait que y contribuent les salariés, les entreprises, et pourquoi pas les non-salariés, c'est que ça permet une protection sociale étendue, ça permet d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, en bonne santé, etc. Donc, je rejoins tout à fait ce que dit Guillaume Duval. On ne peut pas considérer que l'État soit une vache à lait et doive assurer une protection sociale minimale pour tout le monde sans avoir derrière un financement performant, voilà, financé par les travailleurs et par les entreprises.
Father John Misty dans une balade très McCartney, Disappointed Diamonds.
Le débat du midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et dernière partie de ce débat consacré à l'avenir du salariat et problématique inhérente, hein, celui de la protection sociale. Madame, messieurs, je voulais vous demander à tour de rôle, vous avez chacun une petite minute pour nous dire, est-ce qu'il y a un statut aujourd'hui entre le salarié et le non-salarié qui a inventé, qui correspondrait à cette évolution qu'on connaît aujourd'hui de l'emploi, et avec quelle protection sociale qui serait inhérente ? Anne-Edou, pour commencer.
Alors d'abord, je dirais qu'on a quand même des bases, donc je pense plutôt qu'il faudrait re-réguler les statuts d'emploi qui existent pour les rendre plus protecteurs et certainement donner davantage d'obligations aux employeurs. Je pense que c'est peut-être plutôt le statut des entreprises qui est à repenser, en y incluant les plateformes, de manière à donner davantage de pouvoir de décision aux travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.
François-Xavier Olivaux, vous ?
Moi, comme vous l'avez compris, j'aime pas trop les statuts, je préfère les personnes. Donc je pense qu'il faut vraiment reconstruire une solidarité sur les personnes, financée par l'impôt, bien évidemment, puisque l'État, c'est d'abord les impôts des personnes. Mais basculer d'un financement des cotisations qui est vraiment assis sur le salaire, un financement par l'impôt, à montant équivalent, qui est assis sur l'ensemble des revenus, y compris des revenus de plateforme, parce qu'effectivement, c'est normal que en fait, quelles que soient les modalités d'implication dans la vie économique, il faut que les gens aient les mêmes obligations et les mêmes droits. Voilà, c'est ça la logique. C'est de dire, alignons la fiscalité et alignons les taux d'imposition pour avoir des droits et des devoirs universels et homogènes, indépendamment du statut, parce que le monde ira toujours plus vite que les statuts. La révolution techno, elle va beaucoup, beaucoup trop vite pour les pauvres politiques qui, le temps qu'ils aient compris, ont déjà deux trains de retard. Donc on peut pas travailler sur des inventions de statut compliquées et qui deviennent rapidement obsolètes.
Guillaume Duval, pour vous.
J'ai de la chance, je suis d'accord à la fois avec François-Xavier Olivio et Anne Hédoux. C'est-à-dire, oui, il faut dépasser la question du salariat, non-salariat, mais notamment en rendant les salariés, en reconnaissant que les salariés sont les vrais propriétaires des entreprises, que c'est grâce à eux que ces entreprises créent de la richesse et en leur donnant des pouvoirs correspondants dans les entreprises classiques. Et en même temps, il faut effectivement généraliser la protection sociale, quel que soit le statut des travailleurs, ce qui implique effectivement de faire payer aussi des cotisations aussi importantes aux non-salariés qu'aux salariés pour bénéficier du même type de droit.
Mais sur la forme d'un impôt, comme le disait François-Xavier Olivo ?
Oui, ça implique forcément de changer les choses, mais on est déjà dans ce processus à travers la CSG et sa participation au financement de la protection sociale. Moi, j'ai rien contre l'utilisation de la TVA telle qu'elle se fait aussi dans les pays scandinaves qui sont très sociaux, etc., pour financer ce type de fonction. Il y a des solutions de ce type-là, mais ça coûte aussi cher, et donc le coût du travail n'est pas abaissé, et le coût du travail des indépendants est même augmenté si on leur donne des droits équivalent à ceux des salariés.
Merci à nos invités, l'économiste Anne Hédoux, donc spécialisée sur les questions de politique d'emploi et de politique sociale. Merci Guillaume Duval, éditorialiste du mensuel Alternative Économique. Je rappelle votre dernier ouvrage, La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux aux éditions de La Découverte. Et puis merci également François-Xavier Olivo, conseiller pour des dirigeants d'entreprise. Dernier ouvrage paru fin 2017 chez PUF, Microcapitalisme vers un nouveau pacte social. On se retrouve demain, mardi, pour parler de l'école en s'interrogeant là encore sur l'évaluation, mais se dire doit-elle passer forcément par la notation, sinon quelle alternative adopter? Vous pouvez témoigner, réagir en allant sur la page de l'émission sur franceinter.fr.